Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, snob.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imitait son silence.
Bonjour à toutes et à tous. Il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu, tous les vendredis à 13h. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une lecture d'une pièce d'Émilie Bouganem qu'on avait déjà accueillie à Radio Canu et au Théâtre de la Gamelle, puisque nous avions lu une précédente pièce qui s'appelait Variation sur un retour. Aujourd'hui, nous allons lire La Petite Aveugle, et dans les studios avec moi, il y a donc Émilie Bouganem. Bonjour.
Bonjour.
Il y a Didier Beaufils. Bonjour.
Bonjour.
Alice Gaudry.
Bonjour.
Bonjour. Stéphane Rothenberg.
Bonjour.
Bonjour. On a également Delphine Leroy qui est ici.
Bonjour.
Et Jean-Baptiste Godet.
Bonjour.
Voilà, tout ce petit monde est avec moi. Alors cette émission, elle va vous être proposée en deux parties, puisque pour une question de temps, nous allons vous lire donc aujourd'hui l'acte 1 et l'acte 2 de cette pièce. Et la semaine prochaine, à 13h, on vous lira donc l'acte 3. Voilà, avant de commencer, je vous propose une petite introduction musicale. Personnage. Le peintre et voleur de tableaux, ainsi que les didascalies, Amandine Vincent.
La petite aveugle, Alice Gaudry.
La fiancée et la vieille, Delphine Leroy.
Le fiancé, Stéphane Rothenberg.
La sœur, Émilie Bouganem.
Le sage, Didier Beaufils.
Le chaperon, Jean-Baptiste Godet.
Acte 1, scène 1. Le rideau est déjà levé. À l'avant-scène, un tableau est posé verticalement pour que le public puisse bien le voir. Et l'on peut apercevoir le chevalet d'un peintre ainsi que son matériel de peinture. À l'arrière, le décor et les personnages reconstituent exactement la scène que l'on trouve sur le tableau. Le paysage représente un désert. 7 personnages. Ils sont parfaitement immobiles. On les distingue dans la pénombre. De gauche à droite, la sœur se tient debout, en retrait, et elle observe rêveusement le lointain. La vieille femme est assise sur un pouf arabe. Elle brode une énorme étoffe colorée. La petite aveugle, pas encore aveugle, est agenouillée sur le sol, les mains à terre, comme si elle cherchait quelque chose, le visage tourné vers le haut. Le vieux sage est au fond de la scène. Il tient un grand bâton et tourne le dos. La fiancée est debout, au cœur de la scène. Elle porte une amphore en équilibre sur sa tête. Elle est radieuse et semble immobilisée, en pleine marche. Le fiancé est accroupi par terre. Il rit et vient et tient un verre levé en l'air, comme s'il portait un toast. À ses côtés, Le chaperon est également accroupi. Il sourit avec connivence en direction du fiancé. Pour ce qui est du décor, l'on peut voir un pouf arabe, un grand coffre, un banc, tout un bric-à-brac de pique-nique, un narguilé et des étoffes chatoyantes dispersées un peu partout. L'ensemble évoque un joyeux désordre oriental. Un morceau de musique commence et le peintre entre à l'avant-scène. Il examine longuement le tableau, puis entreprend de mélanger ses couleurs. Ensuite, il regarde à nouveau le tableau, pensif. Enfin, il se décide et fait une retouche au tableau. Il peint en blanc les yeux d'un personnage, la jeune fille accroupie au sol. Pendant les quelques instants que dure la retouche du peintre, un personnage apparaît du fond de la scène. Il est habillé de façon extrêmement sobre, avec lunettes noires, si possible, pour cacher son regard. Il doit avoir l'air le plus intemporel possible. Ce n'est pas un personnage de l'histoire. Il s'avance rapidement, noue un bandeau autour des yeux de la comédienne qui joue la petite aveugle, puis il repart aussitôt. À l'instant même où il a quitté la scène, le peintre relève son pinceau et examine quelques secondes son œuvre. Puis, visiblement satisfait de lui-même, il pose le tableau à terre et quitte également la scène, nonchalant. L'éclairage se fait alors sur toute la scène et les personnages qui étaient restés jusqu'alors parfaitement immobiles dans leurs positions respectives s'animent subitement. La fiancée, joyeuse, pose son amphore et entraîne sa sœur et son fiancé hors de la scène. Le chaperon les suit aussitôt. Le vieux sage et la vieille femme sortent de scène calmement, chacun de leur côté. La petite aveugle part en dernier. Elle se relève maladroitement et quitte la scène à tâtons, les bras tendus devant elle. La scène retombe dans l'obscurité quelques secondes. Scène 2. La petite aveugle, la sœur, le vieux sage, la vieille femme. La lumière est rétablie sur scène. Ils entrent du fond de la scène. La vieille femme soutient la petite aveugle. La sœur surgit, effarée.
Que s'est-il passé ?
Je l'ai trouvée accroupie dans la vieille barque. Elle était immobile, elle semblait attendre. Quand je me suis approché, elle s'est tournée dans ma direction, un peu hagarde. Et elle a dit qu'elle ne me voyait pas. Qu'elle ne voyait plus le désert, ni la barque, ni notre vieux ciel.
Tu ne vois vraiment plus rien ?
Je ne vois plus le désert, ni toi, ni les autres, ni rien de tout ce que je voyais jusqu'à présent. Rien de ce que je connaissais.
Comment cela est-il arrivé ?
J'ai vu une grande lumière.
Et après ?
Oui, après.
Au début, je n'étais pas sûre. Je pensais que j'étais peut-être simplement éblouie. Alors je me suis frottée les yeux, encore et encore, comme les jours de tempête de sable. Je cherchais le petit grain coupable, celui qui était en train de me jouer un vilain tour.
Le sable d'ici ne rend pas aveugle.
Je sais. De toute façon, il n'y avait aucun grain de sable. Et pourtant, l'éblouissement persistait. Je ne comprenais pas. J'ai écarquillé mes yeux avec rage et je me suis concentrée. Mais c'était inutile. Mon regard me trahissait. Il semblait désormais incapable d'agripper les images de ce monde.
Ma pauvre petite.
J'ai appelé, mais aucun de vous n'était là. Alors je suis partie à tâtons, droit devant moi. J'avançais avec précaution. C'est un peu idiot, je sais. Dans quoi aurais-je bien pu m'entraver ? Il n'y a que du sable ici, ou presque. Et c'est ce qui me faisait peur, justement. Ce désert n'a pas de limite et moi je me disais que j'allais errer sans fin, seule au cœur de cette immensité sans repère.
Nous t'aurions cherché.
Sans doute, mais je craignais d'aller trop loin, là où vous ne seriez jamais aventurée, là où le désert devient infini. Je me sentais perdue. Mais c'est alors que mes pieds ont heurté quelque chose et en me penchant, j'ai compris que c'était la vieille barque. Notre bonne vieille barque. J'étais heureuse. Je me suis assise dedans, soulagée. Je savais que là, vous me retrouviez.
Elle aura au moins servi à quelque chose.
J'ignore combien de temps j'ai attendu, mais vous m'avez trouvée.
C'est bien éprouvant tout ça. Je vais te préparer un peu de thé. Cela te fera du bien.
Un temps de silence. La vieille femme prépare le thé et le sert à la petite pendant la suite de la discussion.
Elle a eu beaucoup de chance. Notre désert est presque vide. Que peut-on y rencontrer à part le bric-à-brac de notre campement, une barque à moitié ensevelie par le sable, un oiseau de nuit toujours caché et trois acacias dans le lointain? être tombé sur quelque chose dans cette absence de toute chose, c'est un véritable miracle.
Un miracle ? Cela fait 1000 ans, et 1000 fois 1000 ans que nous appartenons à ce désert. Nous le connaissons sans doute mieux que nous ne le pensons. Il nous est familier, jusque dans notre chair. La petite ne pouvant plus compter sur sa vue, ses pieds se sont souvenus d'un chemin pour la sauver. Le hasard et ses prodiges n'ont pas grand-chose à faire ici.
Et pour ses yeux, que penses-tu ?
Pourquoi nous mentira-t-elle ? Si elle dit qu'elle ne voit plus rien, elle ne voit plus rien. Je la crois.
Mais qu'est-ce que cela signifie ? On ne peut pas devenir aveugle du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent ici.
Je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça qu'elles se passaient jusqu'à aujourd'hui, en effet.
Toi, la vieille, depuis combien de temps reprises-tu toutes tes étoffes ?
Depuis que je suis là, depuis toujours.
Est-ce qu'à un seul moment, tes yeux ont manifesté des signes de fatigue ?
Non.
As-tu souffert de picotements ?
Non.
As-tu déjà senti ta vue se voiler, ne serait-ce qu'un instant ?
Je vois trouble les jours de tempête de sable, comme tout le monde. Sinon, jamais. Heureusement, comment pourrais-je repriser si ma vue déclinait ?
Tu ne dis rien ?
Je réfléchis.
Moi, je n'arrive pas à réfléchir.
Tu devrais te calmer un peu.
Il lui tapote l'épaule, prend son bâton et commence à s'éloigner.
Tu t'en vas ?
Je vais marcher un peu du côté des dunes septentrionales, là où l'on peut voir les étoiles, même en plein jour. On pense mieux quand on se dégourdit les jambes, et quand on a un grand ciel à regarder.
Vieux sage, tu n'es pas inquiet, toi ?
Je suis perplexe. Nous voilà bousculés dans nos habitudes. Et je sais que les grandes vérités sont toujours tapies dans les failles de l'habitude. Aujourd'hui, une vérité est née au fond de ces deux yeux borgnes, et elle court déjà jusqu'à l'horizon. Notre vieux désert lui-même en est soudain empli d'une plainte inconnue. Alors, il faudra la prendre au sérieux sans doute et s'en occuper, tous ensemble. Mais peut-être pouvons-nous nous épargner l'inquiétude. Où sont les autres ?
Partis à la chasse aux djinns, comme d'habitude. Ma sœur essaie de convaincre le fiancé qu'ils existent.
Ta sœur est bien plus sage que lui. Je reviendrai quand ils seront de retour. Nous leur parlerons.
Est-ce qu'il faut vraiment leur dire ?
Le vieux sage est déjà sorti. Scène 3. La petite aveugle, la sœur, la vieille.
Ne vous en faites pas pour moi. Je vous sens emplie de tracas à cause de moi. Mais ça ira, je m'habituerai. J'apprendrai par cœur le trajet entre ici et la barque, entre la barque et les trois acacias, entre les trois acacias et ici. Comme ça, je ne vous encombrerai pas, je me débrouillerai toute seule.
Ne dis pas ça, on s'occupera de toi, ce n'est pas ce qui nous soucie.
Mais qu'est-ce qui vous soucie ?
Tu as eu mal ?
Non.
Montre voir.
Elle enlève le bandon de la petite aveugle et ne peut retenir un cri horrifié.
Quel gâchis ! Elle avait de si beaux yeux.
Il y a vraiment des dégâts ? Ça ne doit pas être beau à voir.
Il n'y a plus de couleurs.
Plus de couleurs ?
Tes pupilles ont disparu. C'est comme si tes yeux s'enfonçaient dans un espace infini. Te regarder donne le vertige. On n'a pas l'habitude de croiser au dépourvu une vision de l'infini.
Comme vous voulez.
On va mettre un peu d'eau. L'eau est pleine de force, dit toujours le vieux sage. Il raconte même qu'un jour, elle surviendra par flot et qu'elle emportera notre désert.
Un temps de silence. Pendant les répliques qui suivent, la sœur applique un mouchoir mouillé sur les yeux de la petite aveugle.
Pourquoi tu ne veux pas dire aux autres que je suis aveugle ?
Je ne sais pas. J'ai un pressentiment.
Un pressentiment ?
Oui. Écoute, ma sœur se marie demain.
Il y a 1000 ans, 1000 fois 1000 ans que ta sœur doit se marier demain ?
Je sais. Seulement maintenant, ça ne me paraît plus aussi évident. Tu as entendu le vieux sage ? Les choses paraissent un peu moins certaines tout d'un coup. Notre mariage comme le reste, demain comme le reste.
Je ne vois pas le rapport avec moi.
Tout est en rapport avec tes yeux désormais. Notre désert tout entier, même si on ignore encore pourquoi. Pour le mariage, je ne sais pas ce qu'il en sera. Mais je sais que ma sœur est terriblement heureuse de se marier. C'est quelqu'un qui paraît bâti de gaieté. Toute la journée, elle chante, elle court, elle s'amuse. Tout chez elle rappelle le bon goût de l'allégresse et la sagesse de la légèreté. Je n'aimerais pas que tout ça soit gâché.
Que tu es grave. Je n'avais pas pensé à tout ça.
Tiens, justement, je crois l'entendre rire non loin. Ils doivent rentrer.
Partons.
Vous voulez rester cachés ? Ils finiront par s'en apercevoir.
Oui, bien sûr. Mais disparaissons un moment, jusqu'à ce que notre vieux sage revienne. Il aura réfléchi, lui. Il saura quoi faire. En attendant, s'il te plaît, ne leur dis rien.
Moi, je reprise et je brode. Je ne parle jamais.
Viens.
Elles sortent. Scène 4. La fiancée, le fiancé, le chaperon, la vieille femme. La fiancée est très vive. Elle tourbillonne. Le fiancé partage son allégresse. Le chaperon l'essuie, mécaniquement.
Je te dis que je l'ai vue, mais tu ne me crois jamais.
Parce que je n'ai encore jamais eu de preuve ou de raison de te croire.
Tu as des pauvres mots d'homme de loi pour parler de magie et de choses importantes.
Pour parler de ton djinn que je suis censée avoir vu.
Il était mauve, d'un mauve très tendre, fin et solide comme une branche d'acacia. Il ondulait. D'abord, j'ai cru que c'était un serpent du désert.
Voilà, tu le reconnais toi-même, tu as vu un simple serpent.
Un serpent ne pourrait pas être mauve. Les serpents sont trop malins pour ça. Comment feraient-ils pour surprendre leur proie s'ils manquaient à ce point de discrétion? Ils ne peuvent pas se permettre la coquetterie d'enfiler des robes de couleur. Ils sont dorés comme le désert. C'est pour ça qu'on ne les voit jamais. On retrouve seulement leur peau, des fois, quand elle a commencé à brunir au soleil.
Tu ne crois pas qu'on puisse voir des serpents mauves, mais des djinns, oui?
Je n'ai jamais vu d'autres djinns que le mien. Je ne sais pas à quoi ils peuvent ressembler. Je crois à mon djinn parce que je le connais. C'est tout. Il y a un moment que je l'ai apprivoisé là-bas, au pied du troisième acacia. Mon petit djinn mauve, fin et solide comme une branche.
Hier, tu disais qu'il était rouge. Rouge comme le soleil le soir. Tu racontais aussi qu'il était fragile et très rond. Il a dû avaler tous les insectes du désert pour être aussi rond. Ce sont tes propres paroles. L'idée te faisait rire d'ailleurs. Tu as même ajouté que tu trouvais cela attendrissant qu'il soit à la fois si frêle et si ventripotent.
Tu simplifies tout. Comme si mon djinn devait rester toujours le même.
Si en plus il a des caprices.
Tiens, l'autre jour, tu te souviens? On se promenait tous les deux et tout d'un coup, on a entendu un petit bruit dans le lointain. Fugace comme un éclat de rire, cristallin comme le jaillissement d'une fontaine. C'était mon djinn.
On a entendu un sifflement, long et un peu sinistre. C'était l'oiseau de nuit.
Non.
Tu étais là, tu te souviens? J'ai raison, n'est-ce pas?
Oui, oui, tu as raison. C'était bien l'oiseau de nuit. On passait précisément à l'heure où il aime dispenser ses chants mélancoliques dans le désert. Ça vous rend inquiet et vague pendant un moment.
C'était mon djinn. Vous n'avez pas su le reconnaître. Voilà tout. Et puis, ne t'occupe pas de notre discussion. Il faut toujours que tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Il faut toujours que tu nous suives.
Je dois vous suivre tant que vous n'êtes pas encore mariés. Je suis votre chaperon.
Je sais, je sais. Heureusement qu'on se marie demain. Nous serons enfin débarrassés de toi. Tu fais un triste chaperon. Tu traînes à toute heure une mine consternée qui rend les autres maussades et fait fuir les djinns. Ta présence m'ennuie.
Il ne faut pas lui en vouloir. Elle est de mauvaise humeur quand on s'en prend à son lutin des sables.
J'ai l'habitude.
Je n'ai pas à me justifier.
Elle s'éloigne, vaguement boudeuse. Scène 5. La fiancée, le fiancé, le vieux sage, la petite aveugle, la sœur, le chaperon, la vieille femme. Entre le vieux sage, puis discrètement, la sœur et la petite aveugle qui restent en retrait.
Eh bien, ne me dites pas que vous êtes en train de vous disputer, la veille de votre mariage.
Vieux sage, mon fiancé m'ennuie. Dis-moi, est-ce que c'est embêtant d'épouser quelqu'un qui n'est même pas capable d'apprivoiser un djinn?
Voyons, je pense que vous pourrez surmonter ce petit désagrément. Sinon, tu lui présenteras le tien quand vous serez mariés.
Non. Ici, tout est à tout le monde. On a toujours tout partagé. Nos morceaux de pain, nos peignes, nos chaussures... J'accepte de mordre dans le pain où vous avez mordu et de me glisser dans les tissus encore chauds que vous venez de poser. Je veux bien prêter mon fiancé à ma sœur ou à la petite, si le cœur leur en dit, puisque c'est le seul homme jeune qu'on puisse partager ici. Comme je suis celle qui l'épouse, je me réserverai la nuit de noces, c'est tout. Après, on verra, on s'arrangera. Une nuit chacune, peut-être. Je ferai comme elles voudront, ça m'est égal. mais mon djinn, je ne le partage pas. Il est la seule chose qui soit à moi ici. Il m'appartient parce qu'il n'y a que moi qui ai su l'apprivoiser. Et je le garde.
Je te promets de ne jamais le toucher. Sauf s'il est comestible. Je meurs de faim.
Moi aussi ! Nous avons beaucoup marché. Et il est midi passé.
Je vous apporte du thé.
Je bois à l'honneur de ma fiancée, qui est la plus belle et la meilleure fiancée qui soit.
Même si elle raconte des histoires.
Même si elle raconte des histoires.
Et on a ramassé des baies. Vous devriez vraiment les goûter.
Plus tard. Je dois d'abord vous parler.
Mmh. Vieux sage, ce n'est peut-être pas le bon moment.
Amène-la.
Vieux sage, je t'en prie.
Amène-la.
La sœur amène la petite aveugle. Tout le monde découvre qu'elle est aveugle.
Aveugle. C'est un peu radical comme mot, non? Trop radical pour nous. Cette situation ne peut être définitive. Tu nous l'as appris toi-même. Rien n'est définitif ici. Or, ce qui est scellé depuis toujours dans l'ordre des choses.
Écoute, tout à l'heure, j'ai arpenté le désert, attentif. Le lointain était pareil à celui des autres jours, stoïque, imposant. Pourtant, des détails le trahissaient, lui et ses allures encore imperturbables. Il manquait 3 étoiles dans le ciel. C'était édifiant.
Édifiant par rapport à quoi ?
Nous ne lui rendrons pas la vue. Et tout est en rapport avec ses yeux. Notre désert tout entier. Parce que depuis 1000 ans, et 1000 fois 1000 ans que nous foulons ce désert, nous assistons à un imprévu total, là où rien de nouveau ne devrait advenir.
Rien de nouveau ?
Non, pas le moindre changement.
Et notre mariage ? Rappelle-toi qu'il est prévu que je l'épouse demain. Des noces, ce n'est pas un changement négligeable.
C'est vrai. Seulement jusque-là, demain ne comptait pas. Demain n'existait pas encore. Car nous vivions dans l'éternité où tous les jours se ressemblent. L'éternité est le lieu du perpétuel recommencement. Ce que nous faisions ici, nous l'avions toujours fait, aussi loin que remonte notre mémoire. Nous ne pouvons nous souvenir de la première fois où nous avons vu les grands acacias, ou de celle où nous nous sommes rencontrés. Car toujours nous avons marché sur nos propres pas. Toujours nos actions ont grandi à l'ombre de l'habitude immémoriale. Demain n'avait pas sa place parmi cette ronde des instants, où chaque seconde s'égrenait dans un cercle solidement clos. Jusqu'à présent, notre vieille citadelle avait résisté aux fissures. Mais ses grands yeux borgnes nous signalent l'apparition d'une faille dans l'édifice qui a livré un passage au temps et à ses intermittences. Nous voilà dérangés dans notre éternité. Nous sommes bannis, nous et notre vieux désert. Il est toujours là, presque indemne encore. Mais il n'est plus la patrie de l'éternel. Et nous nous retrouvons en exil, incertain, aux frontières du devenir dont nous ne savons rien.
On n'y avait jamais pensé à tout ça.
Pourquoi personne ne dit rien ?
Il faut beaucoup de silence parfois pour que certaines idées trouvent un chemin jusqu'à notre esprit et notre consentement.
C'est déplaisant. On dirait qu'on se recueille autour d'une mauvaise nouvelle.
C'est le cas, non ?
Pourquoi ce serait une mauvaise nouvelle ?
Vieux sage, tu as parlé de fissures. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que nous allons continuer à vivre avec cette brèche en ignorant ce qu'elle implique pour nous ?
Ce n'est pas à moi de vous dire comment réagir.
Mais vieux sage...
Non, laissez-moi. Nous avons assez parlé. Je vais me promener un peu. Et je vous conseille d'en faire autant.
Bon, il doit avoir raison. T'en marcher un peu.
Ils quittent un à un le campement en silence. Avant de partir... La fiancée se retourne vers la petite aveugle et lui jette son bandeau à la figure. Voyant que la petite aveugle ne parvient pas à le trouver à terre, elle s'approche, prend le bandeau et le noue autour de ses yeux. Ses gestes sont brusques, presque violents. Son visage est mauvais.
Remets ça. Ton regard offense la lumière et tout ce qui est ici. Comment peux-tu nous l'imposer ? Cache-le, qu'on n'ait plus jamais à le revoir.
Elle sort.
Thank you.
36. Le peintre, la petite aveugle, le vieux sage, la fiancée, le fiancé, la sœur, le chaperon, la vieille femme. Dès que le peintre paraît, tous les personnages reprennent la position du tableau et restent figés tout au long du monologue. Le peintre tient un journal qu'il ouvre et feuillette. Enfin, je croyais que l'article ne paraîtrait jamais. Nouvelle œuvre dérobée dans une galerie d'art contemporain. C'est arrivé il y a 3 jours dans une exposition ayant pour thème le néo-orientalisme, etc., etc., etc. Oh ! Il donne du tableau un descriptif précis. On dirait une alerte pour enlèvement. Ah ! Il conclut avec une dénonciation de la cupidité du voleur. De la cupidité ? C'est presque vexant. Mais Larsan se trouve rabaissé à des motifs bien banals. Comme si j'étais un vulgaire trafiquant. Je devrais écrire aux journalistes pour protester contre leur manque d'imagination. Et leur dire ce qu'il en est. Il aurait au moins un scoop à rédiger dans leur canard. Messieurs, je vole des tableaux et je les modifie. Pas pour les rendre ainsi méconnaissables et les revendre plus facilement. Non, dans l'unique but de la modification. Car je ne supporte pas qu'un élan créatif soit épinglé dans une forme définitive. On fige l'art dans le destin d'un seul regard. Le peintre s'est arrêté là, alors on juge que le tableau est achevé. Il ne pourrait pas être autre que celui qu'il est. Je ne reproche pas au peintre de s'arrêter. Heureusement qu'il s'arrête. Vous imaginez un peintre qui s'acharnerait sans fin sur une même toile, traçant, effaçant, retraçant. Ha ! Un cauchemar. Un cauchemar ridicule en plus. Il faut qu'il sache trancher à un moment. Ce que j'accuse, c'est la superstition du dernier coup de pinceau. Celle qui condamne une œuvre au sarcophage. Pour moi, le dernier coup de pinceau n'appartient à personne, même pas au peintre. Alors je retouche. Non pas que je prétende faire mieux que le peintre, mais j'ouvre les sarcophages pour libérer ce qui est enterré vif. Je veux bien arrêter un jour pour profanation, mais pas pour une banale cupidité. Enfin, découpons quand même cette prose. Je garde toujours les articles et je les accroche comme dans des policiers américains. J'aime bien me prêter jusqu'au bout, au lieu commun du brigandage. Il sort. Les personnages quittent la scène. Acte 2. Scène 1. La petite aveugle, la fiancée, le fiancé, le chaperon. La petite aveugle est assise sur le côté. Elle restera là, immobile, durant toute la scène. Le chaperon entrera au cours de la scène sans que personne ne prête attention à lui. Il s'installera vers le coffre et jouera aux cartes, seul. La fiancée est assise sur le banc, le regard dans le vague. Le fiancé entre.
Te voilà. Silencieuse, toi aussi? C'est ennuyeux, ce silence, depuis tout à l'heure. On ose à peine faire le moindre bruit au campement, comme si on avait peur de déranger un deuil ou je ne sais quoi de sinistre. Tiens, je viens de croiser la vieille et je lui ai parlé de la cueillette des baies. Normalement, elle n'est pas avare de conseils pour ce genre de choses. Mais là, elle m'a regardé et elle est partie sans me répondre. J'étais stupéfait. Je ne sollicitais qu'un avis botanique.
Tu es encore capable de banalité. Je t'admire. Tu dois bien être le seul ici.
Je suis un peu perdu comme vous tous, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Me taire, moi aussi, et devenir grave pour me donner l'impression de comprendre un peu mieux ce qui se passe?
Fais ce que tu voudras. Moi, j'ai besoin de ce grand silence pour me tenir à la hauteur de l'événement.
Je t'en prie, laisse ce genre de sentence à ta sœur. Tout cela se veut trop solennel. Chacun cherche la petite contenance qui lui semble la plus appropriée, celle qui lui permettra de mieux se fondre dans la situation. Cela m'agace. Pourquoi la morosité serait-elle plus appropriée qu'autre chose? Il n'y a que le vieux sage qui ne soit pas maussade, lui. Il fredonne des chants anciens en parcourant les dunes. Sa voix est forte et fait un beau tapage qui dérange les autres dans leur humeur assombrie. J'apprécie beaucoup.
Qu'il chante s'il aime chanter.
Toi aussi, tu aimes chanter.
Moi, je ne suis ni vieille ni sage.
et je ne sais pas chanter à la face de qui me fait peur. D'ailleurs, je crois que je ne sais plus chanter du tout.
Tu sauras à nouveau chanter dès que tu poseras ce masque grimaçant qui ne te va pas. Lève-toi et viens. Tu veux que nous allions à la chasse au djinn ?
Non.
Peut-être que je le verrai cette fois, ton petit djinn mauve et rouge, maigre et ventripotent.
J'ai toujours douté que tu le vois un jour. Aujourd'hui, je sais que tu n'y arriveras pas.
On pourrait aller se promener du côté des acacias. On cueillerait les dernières baies. On fumerait et on trouverait bien quelque chose à faire.
Arrête. C'est ce que je refuse, justement. Trouver quelque chose à faire. Je ne ferai pas comme si de rien n'était. De toute façon, je ne vois pas ce que tu es capable de trouver pour penser à autre chose.
Il y a trop de choses à penser, de toute façon. Tellement d'idées contraires que tout finit par s'annuler dans l'esprit pour nous laisser dans un heureux abrutissement. C'est reposant. Je suis même sûr que c'est bon pour la santé.
Écoute, demain, on se marie tous les deux. Tu crois que c'est insignifiant ? Que cela ne mérite pas que l'on y pense un peu ?
Si, c'est important. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je peux te dire que je suis content de t'épouser, très content. J'ai hâte d'être à demain, pas toi ? Si on y réfléchit, c'est une bénédiction pour nous que la petite soit devenue aveugle, puisque sans cet incident, demain n'aurait jamais pu advenir.
Demain ?
Et notre mariage n'aurait pas eu lieu.
Mais c'est trop subi, nous ne sommes pas prêts.
Tu plaisantes ? Nous nous préparons à ce mariage depuis toujours.
Non. Avant, ce mariage n'avait aucun sens. C'était la perspective d'un lendemain de fête, rien de plus. Nous attendions cette célébration de la même façon que les autres l'attendaient, heureux d'avoir une occasion de nous amuser. Nous ne nous sentions pas concernés. Mais maintenant, c'est différent. Il n'est plus question d'une affaire collective ni d'un projet vague et lointain. Il s'agit de toi et de moi. Il s'agit de nous et de tout ce que ce petit mot implique.
Toi plus moi. Nous. C'est joli à clamer tout haut.
Moi, je trouve ça laid. Nous n'est pas la pauvre somme de nos deux réalités. Parce qu'une personne et une autre, cela ne fera jamais nous. Il n'y a pas quelque chose de plus pour les réunir. À t'entendre, l'on croirait que c'est une addition.
Qu'est-ce que tu vas chercher ? J'ai dit ça comme ça.
Alors c'est pire. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Ou alors il y a un problème. Ce terme ne te retient pas, il est anodin à tes oreilles. Nous, tant de choses se jouent pourtant là, dans notre façon de prononcer cette unique syllabe. Comment ignorer cet enjeu ? Pourquoi détourner les yeux des signes qui se manifestent avec fracas ?
Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'accables soudain de reproches que je ne comprends même pas.
Je ne te reproche rien. J'accuse les circonstances et leur mauvais enchaînement. C'est idiot, n'est-ce pas ? Autant se dresser contre les vents. Moi, j'ai besoin de hurler contre quelque chose, même si c'est inutile. Je me sens tellement démunie. Comment se plier à une situation nouvelle quand on ignore ce qu'elle exige de nous ?
Nous n'avons pas l'habitude. Nous l'apprendrons.
Non. Je ne veux pas passer d'une habitude à une autre. De toute façon, nous sommes chassés de l'habitude et de son grand confort.
Tu regrettes ?
Quoi ?
Notre passé.
Nous vivions dans la grâce d'une éternelle enfance, tranquille au seuil de la vie. Nous étions toujours la veille d'un quelconque commencement, alors nous n'avions pas à nous préoccuper d'agir. Demain était une idée bien commode. Un prétexte pour différer de vivre chaque jour. Je regrette, un peu lâchement, notre ignorance et le formidable désengagement de tout qui était le nôtre. Mais je ne voudrais pas revenir en arrière. Trop longtemps, nous n'étions rien de plus que ces rôles de mille ans et mille fois mille ans de répétition qu'on nous avait mis dans la tête. J'ai trop longtemps délégué mon existence au quotidien, à ses hasards et à la vie de tous. J'en ai l'impression d'avoir l'esprit couvert de traces de doigts. Mais je ne démissionne plus. Je reprends ce qui m'appartient. Je vais débusquer les moindres traces d'intrus dans mes pensées et dans mes gestes. Jeter au loin ce fracas impropre. Car désormais, je suis jalouse de tout ce qui n'est pas moi.
Je ne t'ai jamais vue aussi radicale. Même quand tu défendais ton djinn. Mais notre mariage.
C'est là qu'il va nous falloir être le plus exigeant. Nous devons être sincères.
Nous avons maintenant besoin de sincérité si nous voulons que ce mariage soit vraiment nôtre. Pour qu'il ne se résume pas au simple prolongement d'une nécessité révolue. Promets-moi de me répondre franchement.
Je te le promets.
Bien. Dis-moi, qu'est-ce que je suis pour toi ?
Tu es ma future épouse.
C'est tout ? Je ne suis rien d'autre que ta fiancée ?
Si. Tu es une femme belle, vive, impulsive et pleine d'imagination. Une ensorceleuse de djinn.
Tout le monde pourrait me décrire ainsi au campement. Je te demande ce que je suis pour toi et ce que personne d'autre ne saurait dire.
Tu es celle avec qui je passe la plupart de mon temps. Et j'en suis heureux. J'aime danser et chanter à longueur de journée avec toi. Quand tu veux grimper aux acacias, j'aime te soulever de terre pour que tu puisses atteindre les branches les plus basses. J'aime ton grand rire moqueur lorsque tu me dis incapable d'apprivoiser les djinns. J'ai pour toi une affection infinie.
C'est gentil, vraiment. Mais tu crois que c'est suffisant ?
Suffisant pour quoi ?
Pour nous. Prends-moi dans tes bras.
Il la prend dans ses bras.
Voilà.
Serre-moi fort, surtout. À m'étouffer.
Là, aussi fort que possible. Enfin, je vais quand même faire attention à ne pas t'étouffer.
Attends. Il se regarde. Se sourit un instant. La fiancée qui le repousse brusquement.
Non, cela ne va pas.
Qu'est-ce qui ne va pas cette fois ?
C'est trop facile. Tu ne peux pas me prendre dans tes bras et me dire « voilà, comme ça ».
Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu cherches des complications ? Tu n'es pas capable d'un peu de simplicité ? J'étais bien dans tes bras. Et peut-être que tu l'aurais été toi aussi si tu ne posais pas toutes ces questions.
Je n'ai pas dit que je n'étais pas bien. Je doutais de la sincérité de l'instant, c'est tout. Tu sais, moi aussi, j'ai pour toi une affection infinie. Et j'aime aussi tout ce que nous faisons ensemble. J'aime ta force, tes yeux tranquilles. Mais il manque l'essentiel. Alors il va tout falloir réapprendre et vite.
Apprendre quoi ?
Les sentiments et leur profondeur. Et les humeurs de surface qui vont avec. Les élans, les impatiences, les colères. Tout ce dont l'amitié ne s'embarrasse pas. Et puis les gestes. C'est plein de gestes, un amour. Et de mots. Il faudrait savoir faire peser en eux tout le poids de nos âmes. Que l'on ne puisse plus dire « nous » sans en avoir le souffle coupé. Nous devrons réinventer nos présences l'un pour l'autre. Changer l'air autour de nous. S'immiscer les nuits dans nos rêves réciproques. Ne plus nous laisser en paix, s'appliquer à tout avec effort, jusqu'à ce qu'éclose en nous ce brin de lyrisme qu'on appelle l'amour. Un amour fort et franc, alors seulement notre mariage sera au-dessus de tout soupçon.
Un temps de silence. Le fiancé ne semble pas s'être laissé impressionner.
Tu n'y vas pas de main morte avec les conditions. Je pense que tu as trop écouté les histoires du vieux sage. Ton éloquence est belle, mais tes scrupules sont un peu trop juvéniles.
Tu dis ça parce que j'ose vouloir l'amour, la vie, plutôt qu'une mascarade.
Même pas. Je ne parle pas d'amour. C'est ta soif de sincérité qui me gêne. Tu dissèques les choses pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur et tu détruis tout avec ton petit scalpel. Tu m'as paraissé sublime de courage tout à l'heure, dans tes affirmations implacables. Maintenant... Tu m'as l'air d'une fillette terrorisée. As-tu tellement peur de vivre pour t'agripper si désespérément à un fondement ?
De quoi est-ce que j'aurais peur ?
Peur du risque, peur de trébucher. Ose avancer sans justifier chacun de tes pas. En agissant, tu découvriras plus sûrement ce dont tu as envie qu'en t'interrogeant sans fin sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On ne peut jamais prévoir. Tu ne réponds pas ?
Je n'ai rien à répondre.
Réfléchis à ce que je dis. Et ne condamne pas tout d'avance. Moi, je ne suis pas prêt à tout annuler comme ça. Je pense que nous devons essayer. C'est un beau défi, non ?
Peut-être.
Un temps de silence. Un chant.
Écoute, c'est le vieux sage. Il doit rentrer. C'est magnifique.
Oui, magnifique.
Cela ne te donne pas envie de danser ? J'aimerais te voir danser.
Ce n'est pas un air pour la danse.
Tu veux boire un peu de thé ? Je vais en préparer pour tout le monde. Je suis content de te voir calmé.
De toute façon, il est inutile de nous donner autant de mal. Nous n'aurons peut-être même pas le choix.
Où veux-tu en venir cette fois ?
Avant, demain se dérobait comme une éternelle promesse que nous renouvelait chaque lever de soleil. Mais il se peut maintenant que demain chavire, qu'il ne soit jamais. Nous sombrerons, nous aussi, nous et nos projets de mariage.
C'est vrai. On peut peut-être se marier tout de suite.
Quoi ?
Oui. Étant donné les circonstances, on doit pouvoir essayer d'avancer la date. Nous avons été patients pendant très longtemps, non ?
1000 ans et 1000 fois 1000 ans.
Voilà. Je crois qu'on a assez attendu. Je ne me souviens même plus de nos fiançailles. C'est fou, ça. Rien. Trou noir. Tu t'en souviens, toi ?
Me souvenir de quoi ?
De nos fiançailles.
Non.
Toi non plus. C'est bizarre. Pourtant, il a bien fallu que nous ayons été fiancés un jour. Je demanderai aux autres s'ils se rappellent.
C'est ça, tu demanderas.
J'y vais de ce pas. Et je demanderai pour notre mariage, surtout, pour qu'on puisse le célébrer tout de suite.
Tout de suite ?
Oui. Écoute, on a assez parlé et tergiversé, plus qu'il ne faut. Il est temps d'agir. Maintenant, prépare ta robe, prépare ta bague, prépare tout. Moi, je vais voir si c'est possible de faire ça tout à l'heure. Avec un peu d'organisation, on devrait pouvoir s'arranger.
Non, arrête ! Je t'en supplie, arrête !
Je ne comprends pas. L'essentiel, c'est qu'on soit mariés, non ?
Non ! Tu disais que tu ne te souvenais pas de nos fiançailles. Moi, je ne me souviens de rien d'autre que cette attente de noces. Comme si je me résumais à être celle qui va se marier demain. Et il faudrait se marier en vitesse ? Expédier tout ça dans la précipitation, comme une procédure pénible ? Tu crois qu'on peut se préparer pendant 1000 ans et 1000 fois 1000 ans à être mariés ? Si... préparer... chaque jour, jusqu'à ce que cette préparation devienne l'étoffe même de notre joie, puis accepter une conclusion tirée à la hâte. Non ! Pas de solution de remplacement ! Pas de cérémonie bâclée pour unir maladroitement un homme et une femme que rien n'unit, qui ne savent pas être des amants, qui n'ont l'un pour l'autre qu'une affection infinie. Ce mariage était l'horizon de chacun de mes pas, mon horizon. J'aurais dû comprendre pourtant que l'horizon est précisément ce que l'on n'atteint jamais.
Plus aujourd'hui.
Aujourd'hui plus que jamais. Maintenant que je suis bien dépouillée de tout ce qui m'est étranger, je me sens terriblement creuse. Je suis bien seule et pas certaine d'être de bonne compagnie pour moi-même. Mais je sais à présent ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et je ne t'épouserai jamais.
Attends.
Scène 2. Le fiancé, le chaperon, la petite aveugle. Le fiancé reste quelques secondes, désarçonné. Puis il aperçoit le chaperon qui, toujours occupé à jouer aux cartes, n'a pas prêté attention à la situation.
Tiens, tu es là. Nous t'avions perdu. Tu ne nous surveilles plus ?
Je préfère jouer aux cartes.
Je ne t'ai jamais vu jouer aux cartes.
Je ne savais pas encore que j'aimais jouer aux cartes. Mais depuis tout à l'heure, ce goût s'impose à moi. Alors je joue.
Tu as bien raison.
Ce jeu est même pas écorné. Je dois être le premier à l'utiliser.
Elle ne veut plus m'épouser.
L'important, c'est de bien mélanger entre chaque partie. Sinon, c'est de la triche et moi, je suis quelqu'un d'honnête.
Elle ne veut plus m'épouser.
Ah oui ? Ah bah tant mieux. J'aurais plus voulu vous chaperonner de toute façon.
Je ne réalise même pas comment nous en sommes arrivés là. On parle, on parle. On ne s'exprime pas toujours comme on voudrait, mais enfin, on fait de son mieux. On cherche ses mots, on les choisit avec soin. Et puis d'un coup, tout s'emballe, les mots devancent notre pensée et se livrent leur propre combat. On ne contrôle plus rien et on devient le spectateur de notre parole.
Moi, je ne parle jamais. Ça simplifie les choses.
Le vieux sage a raison. Il faut savoir clore les discussions à temps. Sinon, elles risquent de nous échapper, de déraper, de nous amener là où on n'aurait jamais cru aller.
La reine l'emporte sur le valet, mais elle perd contre le roi. Bon, c'est un peu facile comme distribution. Mais en même temps, ça permet de se souvenir plus facilement de la règle du jeu.
Cette décision ressemble à un coup de tête. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle l'avait prise dès le début. Qu'elle y pensait déjà quand je l'ai trouvée sur ce banc. J'aurais peut-être mieux fait de la laisser tranquille à ce moment-là.
On devrait toujours laisser les gens tranquilles.
Elle est tellement têtue et orgueilleuse. Elle ne reviendra pas sur ce qu'elle a dit. Elle a déclaré qu'elle ne m'épouserait pas et elle ne m'épousera pas.
Ce qui est ennuyeux quand on joue contre soi-même, c'est qu'on perd à tous les coups. Mais on gagne aussi à tous les coups. Alors il faut jeter les dés pour trancher et savoir si on a perdu ou gagné.
Attends, il jette les dés.
Gagné !
C'est drôle, je ne sais même pas si je suis vraiment triste. Elle m'a mis dans une belle confusion avec ses histoires de sincérité. Me voilà à me demander si ma déconvenue est réelle ou seulement des circonstances. Cela ne me dérange pas d'être triste, mais au moins j'ai envie d'être tranquille dans ma tristesse. De ne pas l'encombrer de questions.
Je ne me pose pas de questions non plus. Avec moi-même, je préfère me taire aussi. D'ailleurs, souvent, je passe des journées entières sans savoir à quoi je pense. C'est prodigieux. Yes, gagné.
Et pourquoi serais-je triste ? Après tout, je ne faisais que chasser des djinns avec elle. Des djinns qui n'existent même pas.
Encore gagné ? Attends, non, 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 non. Le dé doit être truqué, il tombe toujours sur le 6. Je vais en prendre un autre, parce que je suis quelqu'un d'honnête.
Mais
moi.
C'était bon. On s'amusait beaucoup. On rentrait toujours épuisés de nos tracts. On se laissait tomber à terre et on dormait de longues heures au soleil. Elle me réveillait en me chatouillant avec des brins d'herbe. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle complique tout ? J'aurais aimé l'épouser, moi. Elle aurait été magnifique dans sa robe de mariée. Cet habit est une petite merveille. Laisser à jamais un si bel habit dans une malle, c'est du gaspillage. Je n'aime pas le gaspillage.
Je connais déjà presque toutes les combinaisons et les stratégies par cœur. Je vais être obligé d'inventer des nouvelles règles de jeu.
Peut-être que je pourrais épouser sa sœur ou la petite aveugle à la place. Je suis sûr que leur robe leur irait à elle aussi. J'ai envie de me marier, moi.
Faites ce que vous voulez. Mais seulement, je te préviens, je ne chaperonne plus personne. Je joue.
Mais quel est ton avis ?
Moi ? Mais j'ai pas d'avis ! Demande au vieux sage, il est spécialiste en avis.
Non, justement, j'en ai assez des idées compliquées. J'ai envie d'entendre l'avis simple de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler.
Ok, alors vite, que je perde pas le fil de ma partie. Allez, allez.
Tu crois que ce serait mal si j'en épousais une autre ?
Pourquoi cette question ?
J'ai une fiancée, c'est elle que je devrais épouser.
Bah pourquoi tu l'épouses pas ?
Parce qu'elle ne veut plus du mariage.
Ouais, c'est ennuyé en effet. Tu la regrettes ?
Je ne sais pas. Je trouve surtout ces raisons bizarres.
Mais alors ? Pourquoi tu te mets dans un tel état si tu ne la regrettes pas ?
Je la regrette un peu. Et j'ai envie de me marier.
Bon. Et les deux autres en question, là, tu les aimes, elles ?
Non, enfin, pas que je sache.
Eh bien, si c'est seulement le mariage qui t'importe, épouse celle qui voudra de toi.
Celle qui voudra de moi ?
Absolument ! Le sage t'aurait pas donné de conseils plus avisés.
Et je t'avoue que je suis un peu impressionné par moi-même, là.
Je ne sais pas si la solution est aussi simple.
Oh, si t'es pas convaincu, c'est ton problème. Moi, j'ai assez parlé comme ça. Je vais pas en plus te persuader. Dis, c'est monotone d'être son propre adversaire. Tu veux pas faire une partie avec moi?
J'imagine que je n'ai rien d'autre à faire.
Allons à l'ombre des acacias, je vais t'apprendre les règles. Attends, tu vas voir, c'est super facile. Alors, la reine l'emporte sur le valet, mais elle perd contre le roi. Le valet, il l'emporte sur toutes les cartes avec des chiffres.
Ils sortent. Acte, scène 3. La petite aveugle, le vieux sage. Pendant quelques instants, on réentend le chant. Plus proche, entre le vieux sage.
Vieux sage, c'est toi qui chantais?
Oui, des vieilles rengaines. J'ai invoqué le désert pour qu'il s'apaise. Je lui ai demandé de rester tranquille, de ne pas se mettre dans tous ses états. J'ai chanté longuement pour bien qu'il comprenne. Le ciel et le sable sont plus sereins à présent. Le monde est plus aisé à calmer que les hommes.
Quelle voix tu as! Elle coule en nous comme une eau tiède. On en est ragaillardis jusqu'au bout des doigts. Je suis contente que tu sois là, vieux sage.
Tu es seule? Personne n'est resté avec toi?
Les autres vont et viennent. Je les entends passer. Et parler surtout, ils n'en finissent pas de parler, comme s'ils découvraient quelque chose de nouveau. C'est un peu gênant, on dirait que je ne suis pas là. Tout à l'heure, les fiancés ont longuement discuté. Ils causaient de choses qui ne me regardent pas. Je le sais, et j'étais très mal à l'aise. Mais je n'ai pas osé les interrompre, et ils ont continué, sans se soucier de ma présence. Dis-moi, vieux sage, est-ce que l'on devient un peu moins visible quand on est aveugle? Est-ce que toi, tu peux encore me voir distinctement?
Rassure-toi. Je discerne chacun de tes traits. Ce sont eux qui ne savent plus te regarder.
Qu'ils m'oublient s'ils le veulent, mais qu'ils m'épargnent la gêne d'être témoin de leurs petites affaires. Qu'ils aillent livrer plus loin leurs confidences et leurs colères. Je n'ai pas envie de connaître leurs moindres secrets. Je ne suis pas assez forte pour recueillir tout ce qui se trame en eux. Je veux bien les écouter s'ils en ont besoin, mais pas comme ça. Pas en ayant l'impression d'être une oreille indiscrète.
Je leur en parlerai, ne t'en fais pas.
Il se sert un thé et en donne un à la petite.
Alors, qu'est-ce que cela fait?
Quoi, d'être aveugle?
Oui, ce n'est pas très habile de demander ça, mais je suis curieux. Voilà une expérience dont je n'ai aucune idée.
C'est surprenant, je ne m'attendais pas à ça.
Tu es toujours éblouie?
Plus à présent.
Tout est noir?
Non, justement. Au contraire, la grande lumière s'est décuplée en des milliers de lueurs différentes. C'est là que tout devient surprenant. Incroyable même. J'ignore ce qui se passe, ni comment une telle chose est possible. Vieux sage, mais mes yeux voient encore. Enfin, si on peut appeler cela voir, je ne perçois toujours rien de ce qui m'entoure. Je commence même à perdre un peu la mémoire du réel. Et une multitude de couleurs que je n'aurais jamais imaginées se pressent devant moi. J'en suffoque. Je ne parviens pas à saisir quoi que ce soit dans cette profusion. Je suis comme une gamine qui tendrait les mains pour capturer un rayon de soleil. Et j'ai peur. Je ne suis pas prisonnière des ténèbres, mais cette clarté infinie est plus déstabilisante que la nuit la plus noire.
Étrange. En effet. Très étrange.
Des bruits se font entendre au loin.
Qu'est-ce que c'est?
Tant de bruit. Sûrement un tremblement de terre.
Scène 4. La petite aveugle, le vieux sage, le fiancé, le chaperon, puis la fiancée. Entre le fiancé et le chaperon, l'un tape sur un tam-tam, l'autre souffle dans un pipeau. L'ensemble est tout, sauf mélodieux.
Eh bien, quel vacarme!
Nous jouons!
J'entends.
On a trouvé ces instruments dans le désordre du campement. Personne n'avait jamais songé à s'en servir, c'est dommage. Laisser de pareilles machines aux oubliettes. Scandaleux!
Scandaleux!
Un vrai gaspillage.
Et il aime pas le gaspillage.
Nous avons donc décidé de remédier à cette négligence.
Surtout que nous avons fait toutes les parties possibles du jeu de cartes.
Alors, nous jouons.
Un thé pour fêter ça?
Volontiers. Nous lèverons un verre à notre conversion artistique.
Attends, il boit et tambourine sur son tam-tam.
La musique est quelque chose d'épatant.
Et en plus, elle est vite d'avoir à parler.
D'ailleurs, j'aurais dû m'y intéresser plus tôt.
Il n'est jamais trop tard.
C'est terriblement amusant. Que l'on puisse s'amuser autant à tapoter sur un morceau de peau, c'est là, je crois, le grand miracle de la musique.
Ton miracle est plein de fraîcheur. La plupart des gens louent la musique parce qu'elle connaîtrait le discours propre de l'âme. D'autres, au contraire, pour son talent à nous arracher à nous-mêmes.
Des balivernes, ceux qui pensent de la sorte n'ont certainement jamais tenu un tam-tam entre leurs mains.
Ou un pipeau.
Ou un pipeau. Ces opinions sophistiquées rendent mal hommage à la musique.
Moi, j'ai une vraie sympathie pour ce pipeau. Ce qui est remarquable, c'est que chaque trou donne un son différent.
Là, c'est un crachotement qui est dédaigneux. Là, une expression accablée. Là, un halètement de contentement. Et on trouve même un admirable grésillement pour manifester sa mauvaise humeur. Toute une gamme de soupirs dans un petit bout de bois. C'est une formidable économie pour la voix.
Les musiques solennelles sont belles souvent, elles font frissonner et rendent joyeux et tristes à la fois. Mais aujourd'hui, je me méfie de tout ce qui a trop d'emphase. Je préfère les airs qui donnent des démangeaisons dans les mollets. Pour danser, j'ai envie de m'amuser, moi.
Tu as bien raison.
Cela dit, nous visons une certaine harmonie. Nous voulons apprendre le rythme et le reste pour jouer de notre mieux. D'ailleurs, je pensais qu'une fois que nous serons bien entraînés, nous pourrons faire un accompagnement à tes chants. Si tu es d'accord?
Bonne idée. Nous tiendrons concert sur les dunes. Je suis sûr que les étoiles apprécieront.
N'est-ce pas? Nous avons déjà commencé à nous exercer. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est joyeusement discordant.
Alors nous sommes sur la bonne voie.
Ouais.
Mais il faut encore nous perfectionner. Allons!
Scène 5. La petite aveugle, le vieux sage, la fiancée.
Ils ont commencé par jouer aux cartes. Maintenant, ils ont trouvé un tam-tam et un pipeau pour monter cette clownerie. Que vont-ils inventer la prochaine fois?
Ils s'amusent.
Ils se jettent sur les affaires du campement comme sur des trésors, simplement parce qu'ils ne les avaient jamais remarquées auparavant. Mais leur frénésie est trop grande. Et notre bric-à-brac n'offrira pas des surprises indéfiniment. Il y a si peu de choses à faire ici, si peu d'objets d'occupation. Ils ne devraient pas épuiser si vite toutes les possibilités de ce désert.
Arrête, je n'aime pas le ton que tu prends. En quoi leur fantaisie te dérange-t-elle?
Je tirais un simple constat.
Non, tes allusions ont un timbre revanchard. Qu'est-ce qui te travaille? Tu ne réponds pas? Comme tu voudras. Mais laisse le fiancé tranquille. Il a choisi d'être joyeux et de se divertir. Ce parti pris jovial t'insupporte, n'est-ce pas? Seulement, ce n'est pas ton affaire. Laisse-le à sa gaieté. Tu feras mieux de suivre son exemple.
Pourquoi faire? Combler une après-midi? La remplir bien à ras-bord? Engranger un menu accomplissement histoire de me sentir un peu moins vide ce soir? À quoi bon? Nous serons tous vides lorsque la nuit tombera.
Pauvre folle, va donc courir après tes jeans. Que revendiques-tu avec tes élucubrations contre le divertissement? De la lucidité? Quelle est pauvre cette lucidité qui juge faible ou futile le joie de faire ce qui ne sert à rien.
Il fait quelques pas pour sortir.
Attends.
Quoi?
Vieux sage, est-ce que c'est ça le temps? Attendre?
Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça?
Rien. Je ne suis plus qu'une inépuisable envie de tourner en rond.
Tu t'égares surtout dans des considérations qui n'ont pas lieu d'être. À force de t'examiner, tes interrogations partent à tort et à travers. Tu t'enfonces dans tes propres dédales. Et tu réveilles là bien des peurs, des folies et des désespoirs inutiles. Peut-être trouves-tu héroïque cette exploration de tes bas-fonds. Mais tu sais, il y a des pensées qu'il vaut mieux ne pas pousser trop loin. Car on rend souvent notre haute trouble à la vouloir plus profonde. Alors arrête d'exhiber tes complexités comme des trophées. Tu t'en sens plus riche et tu as tort. Crois-moi, on n'est jamais assez pauvre de soi-même.
Il observe la mine défaite de la fiancée.
Ne te laisse pas abattre. Il faut espérer.
Espérer. Encore une idée nouvelle. L'espoir comme dédommagement au temps? Non. Si on a besoin de l'espoir, c'est que le mal est déjà là. C'est qu'on est déchu de l'instant plein et fort, incapable de respirer à sa cadence. En plus, je ne vois pas ce que nous pouvons bien espérer.
Que tout se calme? Que le temps s'étire, heureux, comme une seconde éternité?
Ah non, je n'en veux plus de l'éternité. Surtout pas une éternité de pacotille laborieusement rafistolée. Et puis, qu'est-ce qu'on en ferait de l'éternité, maintenant qu'on ne sait plus être tranquille?
Elle sort précipitamment.
Thank you.
Vous êtes toujours sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique, tous les vendredis de 13h à 14h, en direct sur Radio Canu. Vous venez d'entendre la lecture de l'acte 1 et de l'acte 2 d'une pièce écrite par Émilie Bouganem, qui est ici dans nos studios, et je la remercie d'être venue. Cette pièce a pour titre La Petite Aveugle, et vous aurez le droit à la lecture de l'acte 3 la semaine prochaine, suivie d'une interview de l'auteur. Je remercie évidemment tous nos lecteurs qui étaient là avec nous. Il y avait Jean-Baptiste Godet, Didier Beaufils, Alice Gaudry, Stéphane Rottenberg et Delphine Leroy et Émilie Bouganem qui a également lu. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine avec la suite de La Petite Aveugle. Merci à tous d'être venus pour faire cette lecture. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, snoble.
Journal vivant, projet politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue, il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.